So we're going to be looking at this afternoon. We'll be looking at Ephesians chapter 1, but we'll be looking at only five verses. We'll be looking at verses 11, 12, 13, 14, and 15. No, 14. We'll stop at 14.
Aujourd'hui, on va regarder encore dans le chapitre 1 de Ephésiens, mais plus spécifiquement des versets 11 à 14.
And before we do so, let us pray.
Et on va d'abord prier.
Father, we praise you for all the blessings we have in Jesus Christ.
Père, nous te louons pour toutes les bénédictions que nous avons en Christ.
We thank you for what you reveal to us through your word.
Nous te remercions pour ce que tu révèles, ce que tu nous révèles à travers ta parole.
How you chose us to be holy, how you forgive us, forgave us, redeem us. How you have made your will known to us.
Le fait que tu nous aies choisi, le fait que tu nous aies décidé de nous rendre saints, que tu nous aies pardonné et que tu nous aies révélé ton plan.
Now we ask you that as we think through the rest of this passage, you help us find joy in being chosen by you, being sealed with your seal, with your mark, the Holy Spirit, and having him as a guarantee of our inheritance.
Et nous prions que, alors que nous continuons à regarder ce passage, tu nous aides à trouver de la joie dans le fait d'avoir été choisi et d'avoir été marqué par ta marque, par ton esprit et d'avoir ton héritage.
And as we've just prayed, guide us, we pray, by your holy, as we just sung, guide us, we pray, by your Holy Spirit, in to understand and apply this text to our lives.
Et comme nous avons chanté, guide-nous par ton Saint-Esprit pour que nous puissions comprendre et appliquer ce passage dans nos vies.
In Christ's name we pray.
Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Right. We're looking at verses 11 down to 14. But we need to remember, and this is particularly for those of you who weren't here last week, we need to remember that verses 3 to 14 are really just one long sentence in Paul's mind, and it's a long sentence containing 202 words. That's how long it is.
Donc on se concentre sur les versets 11 à 14, mais pour ceux qui n'étaient pas là peut-être la semaine dernière, on a vu que à partir du verset 3 jusqu'au verset 14, en fait, c'est une seule très longue phrase qui est écrite par Paul.
Can you imagine that? One sentence that covers those 11 verses.
Que vous pouvez réaliser ça, une seule phrase qui couvre 11 versets.
See, if Paul was graded by my 9th grade language arts teacher, he would have gotten a failing grade.
Si Paul était noté par mon ancien prof de littérature, il aurait eu un F, il n'aurait pas réussi l'examen.
You know, he would have gotten points off for run-off sentences. You know, he keeps on going and going and going. And you're kind of thinking, Paul, why don't you just stop? What's going on?
Il aurait eu des points en moins pour faire une phrase qui s'arrête jamais, qui continue, et sans ponctuation.
But listen, Paul was not, he wasn't a literary, he wasn't in it for this style, was he? He wasn't writing for style. He wasn't Camus or Voltaire or Victor Hugo.
Mais en fait, Paul, quand il écrit, ce qu'il cherche, c'est pas le style, c'est pas Camus, c'est pas Voltaire ou Victor Hugo.
And this sentence isn't proof of his grammatical genius.
Et cette phrase, c'est pas la preuve de son génie de grammaire.
But what it does show is it shows his pure excitement for what God is doing in this world.
Mais ça montre par contre son excitation à l'idée de ce que Dieu est en train de faire dans ce monde.
So you'll notice that when people get excited, and you'll see this particularly in children, when they get excited, they tend to speak in long, run-off sentences.
Et quand les gens sont enthousiastes à propos de quelque chose, on le voit par exemple avec les enfants, ils ont cette tendance à parler sans reprendre leur souffle en une seule phrase.
Ask some of the kids after the service questions about what get them going the most, and you'll see they will just keep going. They won't stop. The sentence will just flow.
Demandez aux enfants tout à l'heure ce qu'ils aiment, et vous verrez que ils se mettront à parler comme ça sans s'arrêter.
That's what we see here in Paul.
Et c'est ce qu'on voit ici dans ce que Paul écrit.
This long, intense, but wonderful, encouraging and emotional sentence is the result of God's unbridled joy for who God is and for God's masterful and sovereign plan for us.
Et donc, cette phrase-là représente pleine d'émotion et si longue représente la joie et l'émotion que ça transmet à Paul, que Dieu donne à Paul à travers son plan.
And though there are deep, deep theological truths here, the purpose of these verses isn't to fill our minds with information, but to lead us to praise God and to feel something of Paul's joy here as well.
Et même s'il y a des vérités théologiques très profondes dans ce passage, le but de ce passage n'est pas juste de remplir nos têtes avec des vérités théologiques, mais aussi de toucher nos cœurs et de nous faire toucher aussi du doigt cette joie qui est liée au plan de Dieu.
In other words, our goal is to allow our hearts to get carried away by God's grand cosmic plan for His creation.
Et donc, le but ici, c'est que nous aussi, on se laisse toucher dans nos cœurs et dans nos âmes et se laisse emporter par la beauté du plan de Dieu.
Because that's what Paul is praising God for.
Parce que c'est à cause de son plan que Dieu... c'est à cause de son plan que Paul loue Dieu.
And last week, Alan helped us get moved to praise God by looking at the blessings we have in Christ in verses 3 down to 10. And you remember, he said that Christ... is, does anyone remember what he said? Yeah, pretty much. Christ is enough for us, but he's all inclusive as well. Same thing.
La semaine dernière, avec Adam, on a vu toutes les bénédictions que nous avons en Christ, et on a vu le fait que Christ est, avec Christ, on a toutes choses, on a tout ce qu'il nous faut.
This week, we will look through how these blessings become ours.
Et cette semaine, on va voir comment ces bénédictions deviennent les nôtres. Deviennent nôtres.
And there's two sides of that coin presented here by Paul.
Et il y a deux aspects un peu à cela que Paul présente.
In fact, the two perspectives.
Deux perspectives.
There's God's perspective and how He brings these blessings to us. And then there's our perspective or our experience of how He brings these blessings to us.
Donc il y a la perspective de Dieu qui nous donne ses bénédictions, et ensuite il y a notre perspective alors qu'on reçoit ses bénédictions.
And if all these blessings are ours in Christ, another way of looking at the whole thing is this.
Et si toutes ces bénédictions sont nôtres à travers en Christ, alors une autre façon de regarder, de comprendre ce passage est la suivante.
How do we become people in Christ? How are we included in Christ? I think that's the word he uses in verse 13.
Comment pouvons-nous devenir des gens qui sont en Christ? Comment pouvons-nous être inclus en Christ?
In other words, how are we saved?
Comment sommes-nous sauvés?
All right. Well, let's take a look into God's perspective on it. Because it's a bit marvelous that he shows us his view of how he saves people.
Regardons d'abord à la perspective de Dieu à ce sujet, parce que c'est merveilleux de voir qu'il nous partage quelque chose de sa perspective et de son plan de salut.
And there are three things normally I want to bring out there, so if you're following along, hopefully you'll be able to distinguish the three things.
Donc il y a trois choses à ce sujet qu'on va voir.
The first we see in verse 11.
La première est au verset 11.
We read that in him, meaning in Christ, we were also chosen. Having been predestined according to God's plan, according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. That's another way of saying according to God's plan, and He does what He plans to do, and nothing's going to stop Him from doing that.
Au verset 11, nous voyons que en Lui, en Christ, nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui met tout en œuvre. Conformément aux décisions de sa volonté, donc suivant le plan de celui qui accomplit ce plan.
These are strong words here, aren't they? In him, we were also chosen, having been predestined. We saw those words in verse 4 last week as well.
Ce sont des mots qui sont forts. On voit que en lui nous avons été désignés, nous avons été prédestinés. C'est des mots qu'on a vus déjà la semaine dernière.
And we even briefly mentioned that these are words we don't really like, predestined.
Et on a aussi dit, remarquer que c'était des mots qu'en général on n'aime pas trop, les mots comme prédestinés.
So what is Paul's point here?
Donc qu'est-ce que veut dire Paul ici?
Well, let me start with an illustration. I hope this helps bring this home.
On va commencer avec une illustration pour nous aider à comprendre.
All of you have grown up in school settings, right? You've went to public school or private school. Was anyone homeschooled? That's my question, actually.
Est-ce que quelqu'un ici a fait l'école à la maison?
All right, doesn't seem like it. Not that that's an issue. That's a wonderful thing, wonderful blessing. But if you've gone to any sort of school, you've probably had the following experience.
Donc si vous avez été à l'école, que ce soit à l'école publique ou privée, vous avez probablement déjà eu cette expérience.
You're playing with other kids in the playground, and you decided to, you all decide to do a team sport.
Vous jouez avec d'autres enfants dans la cour et vous décidez de faire un jeu d'équipe.
Right? And so what do? How do you choose the teams?
Et comment, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment on choisit les équipes?
What usually sometimes happens is we designate two team captains, right?
Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on désigne deux capitaines d'équipe.
Often, they are the best players of the sport.
Et souvent, c'est eux les meilleurs joueurs, en fait.
Sort of equal things out. And each captain will choose people to be on his on their team.
Et donc, chaque capitaine va choisir les gens qui seront dans son équipe.
Right? And so, one by one, each kid is chosen to join one or the other team. And it usually goes, the best kids are chosen first, and the worst kids, the kids who are not no good at the sport, are chosen last.
Et donc chacun est choisi l'un après l'autre. Et souvent, les premiers qui sont choisis sont ceux qui sont les meilleurs dans le sport, et ceux qui sont les moins bons sont choisis en dernier.
Who's ever been chosen last?
Qui a déjà été choisi en dernier?
No, I think we all may have experienced that in some sort of sport. Maybe not all. Some of you may be really gifted in sports. I don't know. But we all and. Yeah, we've all been picked to last, haven't we? We've all been chosen last. If not for sports, maybe for something else. A job interview, right? Maybe you weren't chosen for a job interview. You know how that feels.
Alors, on a souvent, enfin, il y a de grandes chances qu'on ait tous eu une expérience comme ça, que ce soit pour le sport ou pour autre chose, pour un entretien d'embauche, par exemple. On a déjà ressenti la douleur de ne pas être choisi après avoir passé un entretien.
Well, maybe you ran for some sort of student body at your school, and you weren't chosen to be class president.
Ou peut-être que vous êtes présenté pour être représentant des élèves dans une organisation d'élèves et vous n'avez pas été choisi.
Well, my point is this: most of us here, if not all of us, have known rejection at least once and potentially many times in our lives.
Donc, il y a de fortes chances que nous tous ici, nous ayons déjà expérimenté le rejet, en fait, dans une ou l'autre dans différentes situations.
Some of us are so intimately acquainted with rejection that we believe God will eventually reject us too, or has rejected us as well.
Et pour certains d'entre nous, on a tellement été habitué à cette expérience de rejet qu'on pense que Dieu aussi va nous rejeter ou nous a peut-être déjà rejeté.
But what does this verse tell us?
Mais qu'est-ce que nous dit ce verset?
In Christ, we were also chosen.
En lui, nous avons été choisis.
God has picked people to be on his team.
Dieu a choisi des gens pour qu'ils fassent partie de son équipe.
Essentially, Paul saying God has chosen to save people.
Donc Paul est en train de dire que Dieu a choisi de sauver des gens.
More than that, the rest of the verse says he predestined them for the praise of his glory. He planned in advance that your life, you and your life, would lead others to praise his glory.
Et on voit qu'il nous a aussi prédestinés pour servir à célébrer sa gloire. Donc son choix, le fait qu'il nous ait choisi et mis dans son équipe, il a prévu que ça servirait à ce que son nom soit glorifié par d'autres.
We mentioned that many people don't like the word predestined.
On a remarqué que beaucoup de gens n'aiment pas trop ce terme de prédestiné.
Because it makes it seem like we don't have a choice in the matter.
Parce que ça fait un peu comme si on n'avait pas le choix.
Others don't like the word because it makes it seem like God is some sort of fickle God.
Et il y a d'autres personnes qui peut-être n'aiment pas ce terme parce que ça donne l'impression que Dieu est un peu instable, enfin qu'il change d'avis.
Well, that he just chooses randomly some people and then he rejects most.
Qu'il choisit certains mais il en rejette d'autres.
But what does Paul tell us here about our predestination?
Mais qu'est-ce que Paul nous dit ici au sujet de notre prédestination?
He's telling you that if you are in Christ, you have been chosen by God.
Il dit que si vous êtes en Christ, vous avez été choisi par Dieu.
And he tells us that God chooses you, planned to choose you, and always planned to choose you. And it wasn't a question of changing his mind.
Et il dit que Dieu vous a choisi et il a toujours eu ce plan de vous choisir et il n'a pas changé d'idée à un moment.
That's what the rest of the verse means when it goes on to this long thing of saying, according to the plan of him who works out everything in conformity with the purpose of his will. It was God's will to choose you in Christ. He's planned to do that. And verse 4 says, he planned it before creating the world.
Et on voit on a cette longue phrase qui dit suivant le plan de celui qui met tout en œuvre conformément aux décisions de sa volonté. Ça veut dire que sa volonté depuis le début était celle-ci, était de vous choisir et de vous sauver.
And he also tells us that God's choice of specific people in Christ is not based on something in them.
Et ça veut aussi dire que le fait que Dieu choisisse certaines personnes pour les prendre et les mettre en Christ, ça ne dépend pas de ce que font ces gens-là.
You see, it's not according to something they do or have or will do, but it's according to his pleasure and will. We saw that in verse 4 also.
C'est pas basé sur quelque chose qu'ils font, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur, mais c'est basé sur son plaisir. On a vu ça un peu avant dans le chapitre.
Ultimately, he tells us that God's choice is an act of his grace and love.
Et donc on voit que finalement il nous dit que le choix de Dieu est basé sur sa grâce et son amour.
Well, why should this lead us to praise God?
Pourquoi ça doit nous amener à louer Dieu?
Because in a world where people face countless rejection and exclusion, God is choosing people and telling them that they belong to him.
Parce qu'on vit dans un monde où chacun, chaque jour, expérimente le rejet. Et dans ce monde-là, malgré ce rejet, Dieu nous dit, je t'ai choisi et je te choisis pour l'éternité.
But God isn't like the sports captain who chooses the best players. He's not like the HR manager who chooses the person most gifted for the job. He chooses people based on his good pleasure.
Mais Dieu n'est pas comme le capitaine de sport qui va prendre les meilleurs joueurs en premier, ou il n'est pas comme le responsable des ressources humaines qui va prendre le meilleur candidat. Il va choisir les gens sur la base de sa grâce.
And that leads him to choose sinners.
Et à cause de ça, il nous choisit, nous, des pécheurs.
He chooses people who aren't fit to play the sport, who aren't qualified for the job.
Il choisit ceux qui ne sont pas capables de jouer et ceux qui ne sont pas bons pour le métier en question.
He chooses people who aren't even lovable.
Il choisit ceux qui ne sont même pas qu'on n'a pas envie d'aimer.
And when I say that, I'm not thinking about anyone in particular, but myself, obviously.
Et en disant ça, on ne pense pas à quelqu'un en particulier ici, mais à chacun personnellement.
He chooses people who have rejected him.
Il choisit ceux qui l'ont rejeté.
He chooses people who fail constantly and consistently.
Il choisit ceux qui échouent en permanence.
And though we rejected God, if you're in Christ, he did not reject you.
Alors même si nous avons rejeté Dieu, si vous êtes en Christ aujourd'hui, lui, il ne vous a pas rejeté.
And that's a subject of praise because listen to this. If God didn't choose you, you wouldn't have chosen him.
Et ça, c'est un sujet d'adoration parce que si Dieu ne vous avait pas choisi, alors vous ne l'auriez pas choisi.
But not only did he choose you, Look at verse 13. He marks you with a seal. That's our second point. So first is, you belong to God because he chose you. And because he chose you, second point, he's marked you with a seal.
Donc la première chose, c'est que nous appartenons à Dieu parce qu'il nous a choisis. La deuxième chose, c'est que quand il nous a choisis, il nous a marqué au verset 13 de l'empreinte du Saint-Esprit.
To help us understand what it means, what this verse is saying by being marked with a seal, I'll use an image.
Pour comprendre cette image d'être marqué par le Saint-Esprit, on va utiliser d'être marqué par le Saint-Esprit, on va utiliser une image.
I've recently borrowed a book from someone in the church.
Il y a pas longtemps, j'ai emprunté un livre de quelqu'un à l'église.
And if you want to know who it belongs to, you can crack the first cover and see who it belongs to.
Et si vous voulez savoir à qui il appartient, vous pouvez ouvrir la première de couverture et voir.
For those who can't see, in this book, there's a seal.
Pour ceux qui ne peuvent pas voir, dans ce livre, il y a une marque.
This seal writes, this seal says, this, talking to the book, belongs to Alan Davy.
Et le, est-ce qu'il y a ce sceau, il dit, ce livre appartient à Alan Davy.
See, after reading, you know, having received this book, I am intimately aware now that this book belongs to Alan Davy, right? I know it for a fact. It's sealed. It's got his seal on him.
Et donc,
on it.
Si je lis ce livre, je sais que il appartient à Alan Davy. C'est écrit, c'est marqué.
And I know that Alan is entrusting me with the book because this is one of his treasured possessions, and I feel lucky for him to even have lent it to me.
Et je sais que ce livre, c'est, il m'a été confié par Alan comme une possession qui lui est chère, et il me l'a confié.
Because if it wasn't a treasured possession, he wouldn't have put his seal on it, would he?
Parce que si c'était pas un livre auquel il tenait, il aurait pas mis sa marque dessus.
He wouldn't have stamped it and put his name on it, would he?
Il aurait pas mis son nom.
This is essentially what Paul has in mind in verse 13 when he says, when you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit.
Et ça, c'est un peu la même chose que ce que Paul dit, ce que veut dire Paul quand il dit que nous, quand nous avons cru, nous avons été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis.
Just like this book is marked with the ownership of Alan Davy, those who believe in Christ are marked with a seal of God's ownership.
De la même façon que ce livre porte en lui la marque du fait qu'il appartient à Alan Davy, de la même façon, chacun de nous, quand nous avons été choisis et que nous avons cru, nous avons sur nous la marque du fait que nous appartenons à Dieu.
That means if you are in Christ, you belong to God. You are his possession, and he's put his name on you by giving you his Holy Spirit.
Ça veut dire que si vous croyez en Dieu, si vous êtes en Christ, vous êtes son trésor, sa possession, et vous êtes marqué par son esprit.
Why should this lead us to praise God?
Pourquoi est-ce que ça nous amène à louer Dieu?
Well, have any of you ever experienced buyer's regret?
Est-ce que vous avez déjà eu l'expérience de regretter après avoir acheté quelque chose?
Does everyone know what buyer's regret is? Right? What is it?
Jess, like, I feel like... You buy something, you're like, after you bought it, you're like, crap, should I have bought this?
Donc c'est quand on achète quelque chose et puis qu'après coup, on se dit, mince, pourquoi j'ai acheté ça?
Well, guess what? Here's the good news. God, when he purchased you, he didn't experience buyer's regret.
Et la bonne nouvelle ici que nous voyons, c'est que Dieu, après nous avoir achetés, il n'a pas eu ce sentiment de regret de nous avoir achetés.
Rather, he wanted to show the world that you belong to him. He wanted to make sure you know that you belong to him. And to make it crystal clear to everyone that you belong to him, he stamps you, he seals you with his seal, the promised Holy Spirit.
Et non seulement il n'a pas eu ce sentiment de regret de nous avoir achetés, mais en plus il veut même montrer au monde entier que nous lui appartenons et aussi nous prouver à nous-mêmes que nous lui appartenons. Et pour que ça ce soit aussi clair que de l'eau, de roche, il a mis en nous son esprit.
Just like Alan looked forward to obtaining and reading his beautiful books, so he steals them, So does God look forward to having you as his treasure possession.
Et de la même façon que Alan a mis son nom sur le livre et pour marquer son appartenance, de la même façon Dieu a mis en nous sa marque.
And if you feel unwanted or ignored, know that God doesn't reject or throw you away.
Et si jamais vous vous sentez ignoré ou comme quelqu'un dont personne ne veut, sachez que Dieu lui ne vous rejette jamais.
Alan lets people borrow his books, but God doesn't give away his people. Let's praise him for it. He isn't ashamed to have his name stamped on you.
Et aussi bien dans le cas du livre, Alan va le prêter à quelqu'un pour qu'il puisse l'utiliser, mais Dieu ne nous repousse pas, ne nous rejette pas, ne renonce pas à nous.
Alright. So being in Christ means that God has chosen you, destined you to be for the praise of his glory. He has marked you out as belonging to him by giving you the Holy Spirit. But more than that, the same Holy Spirit shows that God values you dearly.
Donc, on a vu d'abord que Dieu nous a choisis et nous a prédestinés pour que nous lui appartenions, qu'il nous a marqués de son sceau par le Saint-Esprit. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, là, maintenant, troisièmement, le Saint-Esprit montre la valeur qu'il nous accorde.
See, because Paul says that the Holy Spirit is God's deposit. He is the deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession. There it is again. We belong to God, to the praise of his glory.
On voit au verset 14, il, le Saint-Esprit, est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.
What does this mean? What is a deposit?
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de gage?
Oh, or down payment, you know, we can use those words interchangeably here.
Ou les arts, on peut aussi parler des arts en français.
When you, some of us actually have recently bought things that are quite expensive, like a house or an apartment or a car. When you buy a house or a car, you generally pay a down payment.
Certains d'entre nous ici, on a acheté récemment peut-être une maison ou une voiture, et généralement, quand on achète des choses qui sont chères comme ça, on fait un premier paiement, on paye un premier paiement.
Yeah, the down permit is something you pay that covers about between 5-10% of the cost of the thing that you're buying.
Souvent, c'est un premier paiement qui couvre peut-être 5-10% du prix total.
Right, and in essence, it's a way for you who are buying a house or a car. It's a way for you to show to the person who's selling you the house or the car that you are really interested in buying that house and car, and that you will pay the full cost someday.
Et le fait de faire ça, ça permet que la personne qui achète rassure le vendeur en montrant son réel intérêt. Et c'est une sorte de promesse que oui, on va payer un jour la totalité.
So the down payment shows two things. One, you're interested in the house or car. You want it.
Ça montre deux choses. Ça montre d'abord qu'on est intéressé dans la maison ou la voiture. On veut cette maison ou cette voiture.
And it's a promise that you will pay the whole cost.
Et c'est aussi une promesse qu'un jour on paiera tout la totalité du prix.
This is the image Paul uses when he says that the Holy Spirit is a deposit guaranteeing our inheritance.
Et donc ça, c'est l'image que Paul utilise quand il parle du Saint-Esprit qui est le gage de notre héritage.
When God gives us his Spirit, he is telling us, like we've seen before, that he wants us.
D'abord, il nous donne son Saint-Esprit pour nous dire qu'il nous veut nous.
And then, he's promising that he will give us our inheritance in full.
Et en plus de ça, il nous promet qu'un jour nous recevrons la totalité de notre héritage.
But what is that inheritance?
Mais qu'est-ce que c'est que cet héritage?
No, because this is something we have to look forward to, isn't it?
Parce que c'est quelque chose qu'on est encouragé à attendre avec impatience.
Well, I think Alan briefly mentioned this last week, but our inheritance is nothing less than a new world.
Et on a un petit peu déjà parlé de ça la semaine dernière, mais cet héritage, c'est un monde nouveau.
Think about that for a little bit.
Imaginez ça un peu.
Some people look forward to their inheritance, don't they? They're going to maybe inherit a nice apartment, or a house, you know, a couple bucks.
Des fois, on est impatient de recevoir notre héritage parce qu'on va avoir un bon appartement ou un peu d'argent. Ou...
Maybe, you know, a signed baseball by a famous baseball player.
Peut-être une balle de baseball qui a été dédicacée.
There's loads of things that we might be excited to inherit.
Il y a des choses qu'on a envie de recevoir comme notre héritage.
But have you ever sat down and realized that God promises you a new world?
Mais est-ce que vous êtes assis et vous avez pris le temps de réaliser que Dieu vous promet que vous allez hériter d'un nouveau monde?
Those in Christ are going to inherit a world freed from the effects of sin and death.
Ceux qui sont en Christ vont hériter d'un monde qui est libéré de l'impact de la mort et du péché.
And the first step to that is the Holy Spirit being poured out onto Christians.
Et la première étape de cet héritage, c'est le moment où le fait qu'on reçoive le Saint-Esprit, que les chrétiens reçoivent le Saint-Esprit.
Now, this should lead us to praise God because this new world that we are inheriting is a world where peace, unity, and joy aren't sort of sporadic foreigners that you meet from time to time, like they are in the world we live in now.
Et pourquoi ça nous amène à louer Dieu? Parce que dans ce monde nouveau dont on va hériter, la paix, l'amour, la joie ne sont pas des choses qu'on voit de temps en temps, comme on peut les voir de temps en temps dans notre monde aujourd'hui.
But they will be constant realities.
Mais ce seront des réalités permanentes.
You see, the gospel promises a new world, but not just for everyone. It promises a new world for those who are in Christ. And it promises a new world that is free from all the sin effects of sin that have stained the world we live in now.
Donc l'évangile promet à ceux qui sont en Christ un nouveau monde qui sera libéré de l'emprise du péché, comme le monde dans lequel on est aujourd'hui.
See, people say, I don't like the Christian message because it promises a new world. But where's that world? We don't see it today.
Et des fois, les gens me disent, j'aime pas le message des chrétiens parce que ça promet un monde nouveau, mais il est où ce monde nouveau?
They talk about peace, but where's peace? I don't see peace. I see war in Ukraine. I see war in Israel.
Ils parlent de paix, mais je vois pas nulle part la paix. Il y a la guerre en Ukraine, en Israël.
They talk about unity, Well, I don't see any unity. Where's the unity that they're promising?
Ils parlent d'unité, mais où est-ce qu'est l'unité?
See, but that's to misunderstand what the Bible means when it says that the gospel promises a new world.
Mais ça, c'est une mauvaise compréhension de ce que la Bible promet quand elle promet un nouveau monde.
This is a world to come.
C'est un monde qui va venir.
But in some ways, it's a world that's already being experienced, or should be experienced in the church.
Mais dans une certaine mesure, c'est un monde qui est déjà partiellement présent à travers l'Église.
Why? Because the church is where the Holy Spirit resides.
Pourquoi? Parce que l'Église est là où reste, vit le Saint-Esprit.
We're looking forward to a new world free from sin, from death, from pain, suffering, sorrow, and affliction, and anxiety, and stress.
On attend un monde qui va venir, qui sera libéré de la mort, du péché, de l'anxiété, du stress.
A world where we feel God's presence. His presence will be among us like the sun on a cloudless summer day.
Et un monde dans lequel on pourra connaître la présence du Seigneur et il sera au milieu de nous comme le soleil dans un jour sans nuages.
But in the church, we have some glimpse of that already because of the presence of the Holy Spirit.
Et dans l'Église, on a déjà un aperçu, quelques petits aperçus de ça, à cause de la présence du Saint-Esprit.
The Holy Spirit gives us, those who are in Christ, joy, peace, and hope in a world full of conflict and suffering.
Le Saint-Esprit nous donne déjà, à nous qui sommes en Christ, l'amour, la joie, la paix, alors qu'on vit dans un monde plein de conflits.
The Holy Spirit is God with you today, with us today. The Holy Spirit is God present with you and in you.
Le Saint-Esprit est la présence de Dieu en vous et avec vous.
So even though he might seem far away, he is actually very near to you.
Et peut-être qu'on pense qu'il est loin, mais en fait, il est très proche.
And that is the world we'll inherit. And we know we're inherited because we have the promised Holy Spirit already.
Et ça, c'est le monde dont on va hériter. Et on sait qu'on va en hériter parce qu'on a déjà le Saint-Esprit.
So that's how we enter into Christ from God's perspective. He chooses you, he seals you, and he guarantees your inheritance.
Donc ça, c'est la perspective de Dieu sur notre salut. Il nous choisit, il nous donne le Saint-Esprit et il nous promet cet héritage.
We've spent more time on this perspective because that's where Paul's focus is on in this passage.
On a passé plus de temps sur la perspective de Dieu parce que c'est sur cette perspective que Dieu met que Paul met l'emphase dans ce passage.
But let's see what happens from our perspective. How do we become people in Christ? How do we experience it?
Mais maintenant, on va regarder sur quelle est notre perspective de ce salut.
Right? And we see it summed up by Paul, essentially in verse 13.
Et on voit un résumé de notre perspective, notre expérience du salut au verset 13.
And you were also included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in him with a seal, the promised Holy Spirit.
En lui, donc en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis.
It's important that this verse is here.
Et c'est important que ce verset soit là.
Because sometimes looking at things from a divine perspective can lead to confusion about our present experience.
Parce que parfois, quand on réfléchit à la perspective de Dieu sur les choses, ça peut nous perdre, nous rendre confus par rapport à notre propre expérience.
What I mean by that? What I mean is that having realized that it's God who chooses you, God who predestines you, God who seals you with his spirit, God who guarantees your inheritance, you kind of think like, well, what am I supposed to do?
Parce que peut-être quand vous réalisez que c'est Dieu qui vous a choisi, c'est Dieu qui vous a prédestiné, c'est lui qui vous a donné son Saint-Esprit, c'est lui qui vous garantit cet héritage, peut-être vous vous dites, mais moi je dois faire quoi?
It seems like we are totally passive when it comes to our salvation.
C'est comme si on était complètement passif vis-à-vis de notre salut.
That God does all the work and we just sit back and enjoy the show.
Dieu fait tout et puis nous on a juste à attendre.
And really, it seems that way because it's kind of true.
Et c'est un peu vrai.
See, the gospel of our salvation is a gospel of grace.
L'évangile de notre salut est un évangile de grâce.
There's nothing we bring to the table that makes us worthy of being saved. There's nothing we saw, there's nothing we do that makes God choose us. He chooses us based on his pleasure.
Il n'y a absolument rien que nous puissions amener et Dieu ne nous choisit pas à cause de ce qu'on peut lui donner.
So it does seem like we are totally passive when it comes to our salvation.
Donc on dirait un peu qu'on est complètement passif dans notre salut.
But if that's true, you might think, well, if ultimately God chooses people to be saved, what's the point of evangelism? What's the point of sharing the gospel? What's the point of being told to trust God and to believe in him?
Et peut-être vous vous dites, mais si du coup moi j'ai rien à faire, c'est pourquoi faire de l'évangélisation? Pourquoi faire confiance à Dieu? Comment ça fonctionne?
What's the point of coming to church on a Sunday to hear the gospel preached?
Ça sert à quoi même de venir à l'église le dimanche pour entendre l'évangile?
See, we do feel like we experience something of the our salvation.
Parce qu'on se dit quand même, oui, j'expérimente quelque chose de mon salut.
That we participate in a way.
Je dois forcément participer dedans d'une façon ou d'une autre.
Paul tackles this issue in the verse 13 that we've seen.
Et c'est dans le verset 13 que Paul répond à ça.
And he's saying this. He's saying the way that God enables us to experience his salvation is through hearing the gospel and believing the gospel.
Au verset 13, il nous dit que la façon dont nous participons à notre salut, c'est en entendant l'évangile et en croyant à l'évangile.
I'll put it this way. How do you... We used the image of applying for a job previously.
On a déjà utilisé l'image de l'entretien d'embauche.
Right. Let's say you go through a job interview. How do you know whether you've been accepted to the job or not?
Donc si on va à un entretien d'embauche, comment on sait si on a été accepté ou pas?
How do you know? What lets you know that you have gotten the job?
Qu'est-ce qui nous permet de savoir si on a eu le boulot?
What was that? Yeah, someone tells you. You get announced. You announced it.
Quelqu'un vous le dit. Quelqu'un vous l'annonce.
Right? Thank you. How do you know that God has chosen you?
Alors comment est-ce que vous savez que Dieu vous a choisi vous?
He announces it, doesn't he?
Il l'annonce aussi.
Now I'm going to be careful here. When you get a job, someone calls you up and says, "Hey, congratulations, you've gotten the job." Now, right? That's how they announce it, right? When God chooses you, He doesn't necessarily call you and say, "Hey, you've been chosen." That's how it happens,
bon,
is it?
Alors, on fait peut-être attention quand même parce que quand pour un entretien d'embauche, quelqu'un en général t'appelle et te dit, "Oui, t'as été sélectionné." Maintenant, avec l'Évangile, Dieu va pas forcément t'appeler et te dire, oh, "Tu as été choisi."
He isn't going to tell you through some sort of mystical experience, necessarily either.
Il va pas forcément nous le dire à travers une expérience mystique.
Although sometimes there are strong experiences, we, you know, look at Paul's story. You'll see that in Acts 9.
Même si ça peut arriver, on le voit, c'est le cas de Paul d'ailleurs dans Actes.
But he tells you through the message of truth, the gospel of our salvation.
Mais Dieu nous annonce cette nouvelle à travers le message de vérité de l'Évangile.
And He enables those words to grip your heart in such a way that you believe and put your trust in the gospel and place your hope in Him.
Et il rend ces mots capables d'attraper votre cœur et de transformer votre cœur pour que vous puissiez placer votre confiance dans ce message.
So in a way, He does call you up and tell you you've been chosen. He does it by you hearing the gospel and you believing the gospel.
Donc d'une certaine façon, oui, il vous appelle pour vous annoncer que vous avez été choisi quand vous entendez l'Évangile et quand vous croyez à l'Évangile.
And therefore, if people are going to come to know the gospel, we need to share it.
Et du coup, si les gens vont, pour que les gens arrivent à faire confiance à l'Évangile, il faut que nous on leur partage.
But that's our experience. We hear the gospel. And we believe the gospel.
Mais voilà, de notre point de vue, c'est ça. On entend l'Évangile et on croit à l'Évangile.
Because that's what Paul tells us here.
Et c'est ce que Paul nous dit ici.
You were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. And when you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit.
En Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'Évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru. Et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis.
What does that leave us?
Qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
I was very tempted, Nelson will tell you, I was very tempted to finish this sermon by playing the catchy funk song Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours by Stevie Wonder.
Et Sylvain a failli conclure ce sermon avec une chanson de Stevie Wonder qui s'appelle Signed, Sealed, Delivered.
In French, you would call it signé, cacheté, livré. Je suis à toi. Why? Because it's essentially a song where the singer affirms their love for someone after having made a mistake.
Et en fait, pourquoi j'ai pensé à cette chanson, c'est parce que c'est une chanson dans laquelle le chanteur affirme son amour pour quelqu'un après une erreur.
And now the singer is promising to fully belong to the person they once loved.
Et il promet d'appartenir totalement à la personne qu'il aime.
In fact, the following phrase is repeated over and over and over, so much so that when I was singing it, OCM got sick of hearing it.
Et cette phrase où il dit qu'il est marqué et qu'il appartient à cette personne, elle est répétée encore et encore et encore.
And the phrase is this: "Oh, baby, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours."
Et donc il chante.
You don't have to sing. But essentially, yeah. This line from that song summarizes beautifully, simply, and in a funky fashion, what this passage is trying to tell us.
Mais en fait, cette phrase de cette chanson est un très bon résumé de ce que ce passage nous dit.
If you are sitting here and you have placed your hope in Christ, you've heard the gospel and you believe it, you can sing, "Oh Savior, here I am, signed, sealed, delivered, I'm yours."
Si vous êtes assis ici et que vous avez entendu le message de l'évangile et que vous y croyez, alors vous pouvez chanter aussi cette chanson et dire au Seigneur que vous avez été marqué par lui et que vous lui appartenez.
Your greatest hope and joy in this world today is that you can know with full assurance that you belong to God if you are in Christ.
Et le plus grand test, la plus grande espérance, le plus grand espoir qu'on puisse avoir dans ce monde, c'est le fait de savoir qu'on est marqué par le Saint-Esprit et qu'on appartient à Christ.
Let's praise him together.
Rendons-lui gloire ensemble.
Oh Father, you who are eternal, all-knowing and all-powerful, able to do the plan that you've set up to do, we thank you for having chosen us in Christ.
Ô Père, toi qui es tout puissant et qui sais toutes choses, nous t'adorons parce que tu nous as choisis nous en Christ.
Thank you for having sealed us by your Holy Spirit.
Merci de nous avoir marqués par le Saint-Esprit.
Thank you for promising that this new world that you've promised to. Thank you for promising a new world free from sin.
Merci de nous avoir promis un monde nouveau sans péché.
Lord, help us realize the beauty of belonging to you.
Aide-nous à réaliser à quel point c'est beau et magnifique de t'appartenir.
Forgive us the times when we say in our hearts that we'd rather belong to ourselves.
Pardonne-nous pour les fois où dans notre cœur nous nous disons que on aimerait bien appartenir à quelqu'un d'autre.
Where we seek to reject your ownership of us.
Où on cherche à s'appartenir à soi-même et on repousse le fait que nous t'appartenons.
Help us be able to sing gladly and with praise that we belong to you.
Aide-nous à chanter avec joie le fait que nous t'appartenons.
In Christ's name we pray.
Au nom de Jésus.
Amen. Yeah.